bienvenue à l'église de l'Épi, 7 rue des Frères Hébert à La Méno. On vient rejoindre des dizaines d'églises sur Strasbourg qui vont célébrer le nom de Jésus. Alors juste pour être sûr qu'il y a des disciples de Jésus qui sont là pour se rassembler, célébrer Jésus, est-ce que vous pouvez faire connaître en applaudissant le Seigneur, le Roi des Rois? Incroyable. Seigneur, on est dans ta présence ce matin, on veut te souhaiter la bienvenue. On veut dire à nos internautes qui sont en train de nous suivre que le nom du Seigneur soit élevé là où vous êtes ce matin. Merci de bénir chaque personne dans ce lieu. On va élever le nom de Jésus. Et la louange, elle précède la victoire. Voilà notre espérance, que Jésus agisse aujourd'hui dans nos cœurs. Alors merci de bénir tout à chacun, du plus jeune au moins jeune, Seigneur. Merci de bénir la louange, l'accueil, tout ce qui va se vivre, les enfants qui font leur rentrée. Est-ce qu'on peut prier pour les enfants? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de bénir les enfants maintenant? Seigneur, merci de bénir les plus petits au milieu de nous, qu'ils puissent te rencontrer et que dans leur cœur, ils peuvent dire aussi « Bienvenue Seigneur ». Alors à toi toute la gloire, que Jésus soit béni et j'espère qu'on va pouvoir louer de tout notre cœur le nom du Seigneur et le Seigneur Jésus. Bienvenue encore à chacun.
Danser pour tard avec des cantiques, chantons ses louanges. À ses pieds déposons nos fardeaux, il nous donne sa paix.
Tous en cœur, approchons-nous de son trône avec repentance. Considérons l'amour de Dieu, grand et glorieux. Nous sommes venus pour te louer, rassembler nous te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, parmi préparons nos esprits à entendre ta voix souveraine. Que ta puissance et ta sainteté resplendissent dans ce lieu. Nous sommes venus pour te louer, rassembler nous te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous chantons à la gloire de ton nom, tu ressuscité. Toi le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous sommes venus pour te louer, rassembler nos deux. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu
toi, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es merveilleux.
C'est le Seigneur, il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, chantez la louange du Seigneur, dites à haute voix qui êtes votre Dieu. Faites connaître à tous les peuples ce qu'il a fait. Chantez pour le Seigneur, car il a accompli de grandes choses. Annoncez-les au monde entier.
Assis sur le trône, vêtu de gloire.
Seigneur, sois exalté. Tu es digne de louange. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur, Seigneur, sois élevé. Tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Seigneur. Assis sur le trône, et vêtu de gloire, Seigneur, sois exalté. Entouré d'honneur, Seigneur, sois élevé. Tu es digne de recevoir tout nos louanges. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous allons laisser le Saint-Esprit agir en nous ce matin. Nous allons l'introniser roi. L'introniser roi signifie là que nous allons laisser nos pensées de côté et nous concentrer, laisser le Saint-Esprit nous remplir de sa présence, nous parler. Donc nous allons déclarer, nous t'intronisons roi. Ô Jésus, tu es Seigneur. Nous allons le faire d'un commun accord de tout notre cœur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous t'intronisons, roi. Nous t'intronisons, roi. Dans nos vies ensemble. Nous t'intronisons, roi. Nous t'intronisons, roi. Dans nos vies, nous t'intronisons, nous t'intronisons, roi, nous t'intronisons, roi. Dans nos vies, oh oui, nous t'intronisons, nous t'intronisons, roi, nous t'intronisons, roi. Seigneur, Jésus, tu es Seigneur dans nos vies. Jésus, tu es Seigneur ce matin. Jésus, tu es Seigneur dans nos vies. Dans nos vies. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur.
dans nos vies. Élevons la voix, adorons une fois encore le Seigneur. Gloire à toi. Merci pour ta présence. Présence, je suis dans la joie, Seigneur. Émerveillé en ta présence, Seigneur, je veux juste une fois de plus t'adorer, t'élever, ô Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence. Oui, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence,
ta joie
me remplit d'espérance.
Il n'y a personne
comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Oui, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Émerveillé
en ta présence, rien ne t'est impossible.
Émerveillé
en ta présence.
Ta joie
me remplit d'espérance.
Il n'y a personne
comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, tu fais de grandes choses, des œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom,
tu fais
de grandes choses, des œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Alléluia.
Chantons.
Alléluia. Alléluia.
Glorifions le Seigneur.
Alléluia. Alléluia.
Puissant. Puissant est ton nom.
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 Oui, glorieux est ton nom.
Merveilleux
est ton nom. Oui, Jésus est ton nom.
Jésus est ton nom.
Jésus est ton nom.
Jésus est ton nom.
Jésus est ton nom. Tu fais de grandes choses. Des œuvres sont.
Tu fais.
Yes. Merci Jésus parce que ton nom est puissant. Ton nom est puissant pour restaurer. Ton nom est puissant pour guérir. Ton nom est puissant pour pardonner. Ton nom est puissant encore aujourd'hui. Et on va s'apprêter à prendre la Sainte Cène, ce repas qu'il nous a demandé de prendre pour nous rappeler que ton nom est puissant. Pour nous rappeler qu'à la croix, ton amour a vaincu la mort. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu ma honte, a vaincu mes erreurs, a vaincu tout ce qui pourrait m'empêcher de croire que tu peux encore m'aimer. Tout ce qui pourrait m'empêcher de croire que tu peux encore faire quelque chose pour moi. On va prendre ce repas ensemble et je vais inviter tous ceux pour qui ça fait du sens. Tous ceux pour qui, un jour, la croix a eu un impact dans sa vie, à se lever pour pouvoir juste faciliter le passage du pain et du vin. C'est pas juste une tradition. Jésus, juste avant sa mort, juste avant qu'il aille à la croix, juste avant qu'il aille mourir, a pris un dernier repas avec ses disciples et il avait hâte de le prendre. Et voici ce qu'il va dire. C'était le jour de la Pâque. Et voici ce que Luc 22, verset 7 nous dit. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque arriva. On tuait des agneaux pour le pardon des péchés et Jésus va être représenté comme étant l'agneau parfait. Donc la Sainte Cène, c'est le souvenir que Jésus pardonne tes péchés, pardonne tes erreurs, te donne une seconde chance, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Et ce qui est bien, c'est que les chiffres, ça va jusqu'à l'infini. C'est le souvenir que Jésus peut te pardonner et veut te pardonner. Et deuxièmement, il dira en verset 17, puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. La Sainte Cène aussi, c'est le fait de partager ce souvenir. C'est de regarder son voisin de droite, de gauche et de dire, hey, on partage ce pain, ce vin, Jésus est mort aussi pour toi. Jésus est mort pour tes erreurs, pour les miennes, mais aussi pour les tiennes. Il est mort pour les erreurs de personnes qu'ils ne connaissent pas encore. Et si tu es là ce matin et peut-être que c'est la première fois que tu vois la Sainte Cène comme ça, Jésus est mort pour toi. Et on va prendre ce vin et ce pain pour se rappeler, parce que c'est tellement facile d'oublier. Donc je vais juste prier pour ça, les éléments vont être distribués. Prenons ça en reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Et prenons ça aussi en analysant les gens qui sont autour de nous et de se dire, waouh, Jésus est mort aussi pour mon voisin. Jésus est mort aussi pour mes enfants, pour ma femme, pour mes frères, mon cousin, même pour les personnes avec qui en ce moment je suis en conflit. Jésus est mort pour elles.
Donc on va juste fermer les yeux pendant que les éléments vont passer. Je vais prier pour ça. Gardons ça en tête. C'est l'agneau parfait qui est mort pour nous. Et partageons ce souvenir ensemble. Seigneur, merci pour ce repas. Ça peut tellement être facile de le prendre juste par tradition puis d'oublier le sens de ce que tu as voulu dire à ce moment-là. Et c'est tellement précieux, Seigneur, de se rappeler que ce pain représente ton corps qui a été cloué, qui a été brisé à la croix pour le pardon de nos péchés. Ce corps qui était innocent. Mais tu as dit, je donne ma vie, personne ne me la prend, je donne ma vie gratuitement pour sauver des gens qui mettront leur foi en moi. Et merci pour ton sang qui a coulé, ce sang qui nous lave, ce sang qui nous pardonne, ce sang qui nous purifie, ce sang qui change notre cœur aussi, qui change notre caractère. Ce sang qui nous donne un cœur nouveau. On veut te remercier, Seigneur. Ce que tu as fait, tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait par amour pour nous. Ce que tu as fait, on ne le méritait pas, mais tu l'as donné comme une grâce pour nous. Ce que tu as fait, Seigneur, on pourrait douter de sa puissance, mais aujourd'hui, elle pardonne encore des vies. La croix est encore efficace aujourd'hui, et en prenant ce repas, on veut célébrer ça ensemble. Pour nos vies, pour notre propre vie personnelle, mais aussi en tant que corps de Christ, en tant qu'Église. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous. On va prendre ce chant qui dit infiniment grand. On va célébrer ensemble la grandeur de Dieu, la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous.
Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé en moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme
Alléluia.
C'est la vérité. Et juste avant de s'asseoir, juste avant de prendre ce temps, on va écouter un message qui va édifier notre foi, juste dans un temps de silence ensemble. On chante « Oh Dieu, tu es infiniment grand ». Est-ce que tu pourrais redire à ton âme une situation dans laquelle tu as pu constater l'infinie grandeur de Dieu ? Où Dieu est intervenu, Dieu t'a parlé, Dieu t'a consolé. Juste un instant, comme David disait « Mon âme », il parlait à son âme, il disait « Mon âme, bénis l'Éternel ». Est-ce que celles et ceux qui ont une relation, une communion avec Dieu peuvent juste entrer en eux-mêmes et dire « Mon âme, voilà pourquoi je dis en mon âme, Dieu est infiniment grand ». Souviens-toi d'une situation, d'une parole, d'un verset, d'un texte, d'une intervention de Dieu. Édifie-toi en disant « Mais dans cette situation, j'ai réalisé, Dieu, tu es infiniment grand ». Ce n'est pas juste des paroles. Tu es infiniment grand, Seigneur. La situation qui me vient personnellement, que je voudrais vous partager, c'est la première fois où j'ai réalisé que Dieu donnait le courage et la force de dire non. J'avais quelques jours de conversion. Et mes anciens amis ne savaient pas trop ce qui se passait dans ma vie, alors ils sont venus avec de la drogue. Il m'a dit « Mathieu, regarde, c'est la meilleure drogue qu'on ait trouvée dans le quartier. » Et à chaque fois que cette situation se passait, je disais toujours « C'est trop bien, merci. » Quelques jours après avoir rencontré spirituellement Jésus, ça n'a pas toujours été simple. Mais pour la première fois, pendant plusieurs années, je disais toujours « Oui ». Cette fois-ci, j'ai dit « Non ». Et c'est la première pensée qui m'est venue. « Dieu, tu es infiniment grand parce qu'à un moment donné, tu me permets de faire des choix. » qui me rapproche de toi et qui m'éloigne de ce qui t'éloigne de moi. Dieu, tu es infiniment grand. Vous pouvez prendre place, soyez les bienvenus dans ce lieu ce matin. Très heureux de pouvoir communier avec Dieu et avec vous. Ce matin, je m'appelle Mathieu Thoman, je fais partie de l'équipe pastorale ici à l'église de l'Épi et on est très heureux ensemble de pouvoir se rassembler. Septembre pour nous à l'Épi, c'est un mois de rentrée. Ce qui veut dire que de dimanche en dimanche, on va communiquer avec vous sur tout ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Il y a la rentrée des classes, mais il y a aussi le retour de toutes les personnes qui vivent régulièrement la vie de l'église locale ici à l'Épi. Donc encore une fois, si vous êtes nouveau, visiteur, vous arrivez pour cause de travail, vous arrivez parce que vous avez déménagé, soyez les bienvenus à Strasbourg, la plus belle ville de France. Et soyez les bienvenus en Alsace, la plus belle région de France. Et bienvenue à l'église de l'Épi, une église imparfaite, mais qui croit dans un Dieu parfait. Amen. Donc bienvenue à vous. On veut connecter avec vous. Si vous voulez vraiment savoir plus sur l'église, il y a dans le hall d'accueil ce qu'on appelle un point accueil. Laissez vos coordonnées. On pourra prendre un temps d'échange, de contact avec vous. Ce sera vraiment une joie pour nous de pouvoir apprendre à vous connecter. Et certainement, vous avez plein de questions sur comment on vit l'Église au quotidien à Strasbourg, ici. Et on sera heureux d'échanger avec vous. Il s'est passé plusieurs choses pendant l'été. Et quelque chose qui tenait à cœur pendant l'année, on en a parlé, ça s'appelle Teen Street. C'est un rassemblement d'ados entourés de grands frères et de grandes sœurs. Et je vais inviter à venir une partie de l'équipe qui a accompagné nos ados. Ils sont beaux, hein? Simplement, voilà, pour un temps de rétrospective aussi, et pour vous donner des nouvelles de ce que Dieu a fait.
Bonjour à tous, on est tellement, tellement heureux de revenir sur les strates ce matin. On espère que vous avez passé un super bon été, en tout cas nous oui, vraiment, vraiment. Donc ce matin, on vient pour une raison toute particulière. Et alors, comme l'a dit Mathieu, il n'y a pas Thierry et Marie avec nous ce matin, mais on est une équipe de quatre, et donc on a un petit mot de leur part aussi à eux. Donc pour rappel, Teen Street, c'est un camp d'été international, et on est parti à peu près à 25 de l'EPI, ce qui était énorme. La plupart, bien sûr, c'était des ados. Et donc voilà ce qu'ils nous écrivent, Marie et Thierry, de là où ils sont. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour ce camp de jeunesse qui a réuni des jeunes et des disciples de Christ de plusieurs nations. Nous avons vu le Saint-Esprit et l'amour de Dieu toucher les cœurs, guérir, restaurer, libérer les vies et baptiser du Saint-Esprit. C'était si précieux et si riche, cette école du service en unité d'esprit et de cœur pour un seul but, le salut des jeunes et la joie de rencontrer et de louer Jésus.
Voilà, quasiment tout est dit. Mais c'est vraiment important pour nous de vous remercier tous, parce que si on a pu participer à ce rassemblement, c'est en grande partie grâce à vous, grâce à l'Église, grâce à l'administration de l'Église, où vous avez été très généreux l'année dernière. On a pu partir encore une fois sans encombre, et on a pu vivre des choses vraiment uniques, comme Thierry et Marie l'ont dit, de voir un Suédois qui va prier pour un Italien, ou bien un Portugais qui a prié pour un Américain, qui a fait des kilomètres pour venir. C'est juste magnifique. Donc, on vous remercie vraiment. C'est vraiment des expériences qui sont, qui marquent nos vies et qui nous encouragent dans notre vie avec Dieu. Donc, merci à vous.
On peut les encourager. Merci à Thierry, à Marie. Il y avait Philippe aussi. Il y avait quelques personnes avec vous. Donc, un grand merci. Voilà. Vous allez bien? Oui. On a une très bonne nouvelle. Le sens même de l'Église, c'est que des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes puissent découvrir Jésus. Et on est très heureux de vous annoncer qu'il y a une prochaine session de baptême qui va arriver. Donc ça commence, les cours baptême, le parcours baptême démarre le mercredi 13 septembre. Vous avez vécu une expérience spirituelle avec Jésus. Vous voulez aller plus loin avec le Christ. Nous serions heureux d'être cette église qui vous accompagne dans un parcours vers le baptême. C'est pourquoi allez au point accueil, faites-vous connaître. Il y aura un entretien avec un des pasteurs ici pour vous accueillir, pour écouter votre parcours, pour vous accompagner, pour qu'on puisse vivre un temps encore de célébration avec des hommes et des femmes qui donnent leur vie à Jésus, avec le beau baptistère qui est là, et on se réjouira avec toute l'église, n'est-ce pas? Ok, super, des baptêmes, wouhou. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous à l'EPI, parce que nos enfants, c'est la rentrée. Donc s'il y a encore des enfants de moyenne section maternelle, jusqu'au CM2 dans la salle, sache qu'il y a tout un environnement pour t'accueillir, il y a tout un programme qui est là. Ça se passe dans la zone de cafétéria, ici, et tu peux vraiment aller rejoindre toute une équipe. C'est vraiment la rentrée, et on aimerait vraiment que cette année, nos enfants puissent vraiment expérimenter encore davantage l'amour de Dieu. Non seulement nos enfants, mais les parents qui les entourent et les grands-parents qui parfois, pendant l'été aussi, enchaînent quelques journées et deviennent des grands-parents chic ouf. Ah, les petits-enfants viennent, chic! Ah, les petits-enfants sont partis, ouf! On aime les parents. Et spécialement pour vous, on veut vraiment cette année encore être intentionnel envers vous, papa et maman. Il y a aussi plusieurs dynamiques qui vont redémarrer, plusieurs actions qui vont redémarrer ici à l'EPI. Donc j'ai parlé des enfants, donc de la moyenne section maternelle au CM2. Le dimanche 10 septembre, c'est Between, les 6e, 5e et Cadeau, les 4e qui vont redémarrer aussi dimanche 10 septembre. Donc si tu es de la 6e jusqu'à la 4e et tu es au lycée, eh ben c'est un temps fort pour toi. Donc marque ça dans ton agenda, et tu sais quoi, marque ça dans l'agenda de papa et marque ça dans l'agenda de maman, et mets un rappel d'avant, du jour d'avant et du jour d'avant et du jour d'avant, pour que papa et maman n'oublient pas que Cadeau et Between, ça redémarre. On continue dans la dynamique des 0-25 ans, parce qu'il y aura aussi le redémarrage du groupe des jeunes adultes, les 18 ans et plus, le samedi 23 en salle jeunesse. Donc tu as plus de 18 ans, il y a toute une dynamique, l'église, c'est toute une dynamique de 18 ans et plus qui veut s'édifier dans la foi, qui veut permettre aussi de faire découvrir la foi. Donc tu es là, le bienvenu, pareil, tu ouvres ton agenda papier, tu ouvres ton agenda et tu dis « Hey, cette date, elle est trop importante, le samedi 23, salle jeunesse, je serai présent. » On continue avec la jeunesse. Avec les 30 ans et plus, ça redémarre aussi le dimanche 17 septembre. Donc on aura une sortie à cet effet, le dimanche 17, dans la zone du Mont Saint-Odile, voir Grégory qui se tiendra dans le hall d'accueil ici, d'accord ? Donc si tu es intéressé, tu as 30 ans et plus, il y a aussi tout un environnement pour toi, tout un espace ici à l'église pour pouvoir vivre ta foi, découvrir la foi aussi. On continue avec la jeunesse, la rentrée des aînés, le vendredi 8 septembre. Ils n'ont pas dit amen les aînés, c'est dommage. Ils renouvellent nos forces comme l'aigle. Hein ? Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Donc la rentrée des aînés aura lieu le vendredi 8 septembre à 14h30 dans la salle jeunesse. Il y a des flyers pour vous, les seniors, les aînés. Là, on est en début d'année. Je répète un peu comment on communique sur notre vie d'église. Pendant le mois de septembre, on vous rappelle toutes les dynamiques, toute la vie de l'église qui se passe. Et à un moment donné, il y a tout ce qu'il faut au point accueil en termes de flyers, de dates, pour tout savoir sur nos groupes de vie, sur les 0-25, sur tout ce qui se passe à l'EPI. Donc, prenez la bonne habitude. Il y a tout ce qu'il faut au point accueil de venir récupérer ce petit flyer. Merci à vous, parce que la vie de l'église dans l'année, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que j'ai fait le tour de la rentrée. Il y aura encore d'autres informations. Je voudrais simplement, s'il vous plaît, qu'on puisse prier pour les enfants aujourd'hui. Ça va marquer une année forte. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour les enfants ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce temps qui nous est donné de nous rassembler à minimum une fois dans la semaine. Merci pour nos enfants qui sont en train de se rassembler. Il y a tous les animateurs, tous les monos. Il y a un temps vraiment, Seigneur, dédié pour eux. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et nous voulons que l'Église puisse être un espace, Seigneur, où l'enfant est accueilli, l'enfant est aimé. L'enfant peut apprendre à te connaître là où il en est avec toi, dans sa construction, dans son développement. Que cette année soit l'occasion pour plusieurs enfants de dire, mais mon oreille avait entendu parler de Jésus, mais maintenant mon œil t'a vu, Seigneur. Je te prie vraiment, et on te prie en Église, pour les monitrices, les moniteurs, tous les responsables de la dynamique 0-25 ans ici à l'EPI. Il y a des enjeux, c'est vrai, mais toi tu règnes, Seigneur. Merci de nous accompagner en tant qu'Église à être une source de bénédiction pour la nouvelle génération. Merci Seigneur pour ce temps aussi qu'on va vivre avec Raymond Pierre. Un temps pour tout, un temps pour t'élever, pour célébrer le nom de Jésus, un temps pour édifier notre foi sur la base des Écritures, sur la base de la Bible. Merci Seigneur pour cette belle journée. À toi toute la gloire. Amen.
Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Il y en a quelques-uns qui vont bien, il y en a d'autres qui sont en bataille. Ben, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. J'y crois, mais j'y arrive pas. J'y crois, mais j'y arrive pas. La plupart d'entre nous dans cette salle, on est disciples de Jésus. Et puis on sait que Jésus est mort à la croix pour nous libérer du péché et faire de nous de nouvelles créatures. Mais pourtant, on vit des luttes, on vit des batailles, on vit des enjeux. Il y a d'un côté dans notre tête un désir d'honorer Dieu, et de l'autre, nos chutes dans différents aspects de nos vies. Et puis des fois on peut se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème chez moi ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas chez moi ? Alors, tous les personnages que je vais citer à partir de maintenant sont des personnages fictifs. Et comme dit le générique des films, toute ressemblance avec un individu connu est fortuite et indépendant de ma volonté. Ça vous va ? On va commencer ce matin avec Jean-Marc. Jean-Marc, il est chrétien depuis 15 ans, il aime Jésus de tout son cœur. Mais Jean-Marc souffre d'une addiction à la pornographie. Quand l'addiction est forte, il se dit « Mais moi aussi, j'ai le droit à un peu de plaisir comme les autres. » Et puis quand il chute, il se dit « Seigneur, ça y est, c'est décidé, là je m'engage, et puis je vais lutter, et puis je vais triompher. » Jusqu'à la prochaine fois. Ensuite, on a Michel et Betty. Michel et Betty sont mariés depuis 10 ans. Ils sont les heureux parents de deux enfants de 1 et 2 ans. Michel est chauffeur routier international. Il part en déplacement toute la semaine. On est vendredi, il est derrière son camion et il est déjà en train de se projeter sur sa soirée en se disant « Cool, je vais pouvoir rentrer et me poser devant la télé pour pouvoir me reposer. » Le problème, et ce qu'il ne sait pas, c'est que Betty, ça fait 2 jours que les enfants ils sont horribles à la maison. Et elle attend qu'une chose, c'est que son mari rentre pour prendre le relais. Et alors qu'il franchit les portes de la maison, Betty le salue et lui dit « Chérie, est-ce que tu peux t'occuper des enfants ?» Et là, lui dit « Ah non, c'est bon. Moi, il y en a assez, j'ai travaillé toute la semaine, j'en peux plus. » Alors Betty va lui répondre gentiment « Mais avec toi, c'est toujours pareil. Tu fais jamais rien pour la famille. » S'ensuit une dispute, des tensions pendant le week-end, et puis Michel reprend la route. Michel sait qu'il aurait dû avoir plus d'attention aux besoins de son épouse quand il est rentré. Betty sait qu'elle n'aurait pas dû le piquer et lui reprocher tous les maux de la terre dans ce mot « toujours ». Mais en même temps, il l'a piqué. Et ils sont dans un problème incessant de disputes et puis de demandes de pardon. Ils en ont parlé au pasteur, ils en ont parlé à l'église, ils ont prié pour ça. Mais ça continue. Ensuite, on a Pierre. Pierre, il a 40 ans, il travaille dans une grande entreprise. Et puis, il a l'occasion d'avoir une promotion. Le problème, c'est qu'il y a un de ses collègues de travail qui est allé parler à la direction pour se mousser et puis pour dénigrer Pierre. Et alors Pierre, il bouillit à l'intérieur de lui et à un moment, il chope ce collègue et lui dit « Toi, tu vas me le payer ». Et il part en l'insultant et je vais vous passer les insultes. Il part en l'insultant, puis il rentre chez lui et il se dit « Mais j'ai encore mal agi. Je me suis encore laissé déborder. » Et ce, comme à chaque fois que je vis une injustice. Et enfin, il y a Thérèse. Thérèse, c'est une disciple de Jésus, consacrée, qui met tous ses efforts pour prier, pour lire sa Bible au quotidien, puis être une bonne chrétienne. Mais le problème chez Thérèse, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des malheurs qui frappent sa vie, elle se demande qu'est-ce qu'elle a fait encore à Dieu. Vous savez le film « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?»« Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? En quoi j'ai désobéi pour qu'un malheur s'abatte sur ma vie ?» Alors là, vous pouvez me dire, mais c'est quoi le rapport entre une situation de pulsion, une situation de tension, une situation de vengeance et une situation d'opinion religieuse? C'est que toutes ces personnes vivent une insatisfaction dans leur vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils vivent tous une forme d'insatisfaction. Et ma question ce matin, c'est est-ce que ces pulsions, est-ce que ces tensions, ce désir de vengeance, cette forme de religion, est-ce que c'est normal chez des disciples de Jésus? Mais si c'est normal, est-ce que nous sommes condamnés à vivre avec ça toute notre vie, en subissant, ou est-ce qu'il existe un moyen d'agir et de réagir différemment à nos contextes de vie? Est-ce que notre libération du péché, comme on l'a entendu pendant la Sainte Cène, peut être autre chose que des mots sur une Bible dénuée de puissance dans notre quotidien et dans notre vie? C'est ça l'enjeu de ce matin. Est-ce qu'on peut réagir différemment? Et c'est à ces questions-là qu'on va essayer de répondre ce matin, et on va regarder ce que l'apôtre Paul a communiqué à ce sujet. Pour ça, on va aller dans la lettre de Paul aux Romains. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, cette lettre de Paul aux Romains, c'est un peu un résumé théologique de ce qu'est la vie chrétienne. Elle va expliquer qui est Dieu, qui est l'homme et le fonctionnement de la relation entre Dieu et l'homme. Alors si vous n'avez jamais lu l'Épître aux Romains, mes amis, prenez cette semaine ces 16 chapitres, mais qui vont vous donner un paysage, un format de ce que c'est la doctrine chrétienne, pour comprendre les enjeux qui sont derrière. On commence la lecture au chapitre 7, alors ce matin on va naviguer dans le chapitre 7 et 8. On ne va pas tout lire à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de matière, mais on va aller sur des éléments essentiels. Romains 7, 14 à 17, et Paul dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » On va décortiquer un petit peu ce passage. Et c'est important pour vous de savoir qu'il y a un débat chez les théologiens d'hier et d'aujourd'hui pour interpréter ce passage. Alors, il y a trois grandes lignes, il y en a d'autres, mais je vais prendre les trois plus grandes. La première, c'est que Paul parle en disant « je » de manière rhétorique. Il se place dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui vit cette lutte intérieure. Ça, c'est une interprétation. La deuxième, c'est que Paul parle de sa vie passée lorsqu'il était un pharisien, c'est-à-dire c'est un des mouvements du judaïsme, lorsqu'il était dans cet aspect-là, dans cette branche qu'est le pharisaïsme. Et enfin, ça décrit juste le combat spirituel auquel Paul fait face et qui finalement décrit la bataille de chacun d'entre nous au quotidien, cette bataille que nous devons mener face à nous-mêmes. Et en fait, ce matin, j'aimerais juste qu'on retire ensemble des éléments de toutes ces positions qui peuvent nous aider, à prendre position ce matin, à prendre position pour Dieu et de voir comment faire face à la lutte en nous et mener le combat. Le premier point que je veux soulever avec vous, c'est un constat. Il va s'afficher. Le premier constat, nous vivons tous avec une loi. Nous vivons tous avec une loi. La première interprétation évoque des gens, on l'a dit, qui n'auraient pas Dieu dans leur vie, mais qui auraient une certaine forme de loi en eux. Et ça, c'est cohérent avec ce que Paul va dire dans le chapitre 2 de l'Épître aux Romains, en versets 14 et 15, où Paul parle que les non-croyants ont une loi à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, il y a un poète de l'Antiquité, du temps de Rome, Ovid, qui disait « Je vois le bien, je l'approuve, et j'imite le mal ». Alors ce point-là, il est vraiment pertinent à notre époque. Vous savez, dans notre époque, on dit qu'il n'y a pas de bien et de mal absolu. On dit que finalement, le bien et le mal, c'est une conception qui a été inventée par les hommes, inventée par la culture et bien souvent inventée par la religion. Ça, c'est la pensée des gens autour de nous. Ça a été créé. Mais c'est fascinant que les gens qui vont vous dire ça, c'est les premiers qui vont chercher à trouver des excuses lorsqu'ils n'ont pas fait envers vous ce qu'ils s'étaient engagés à faire ou lorsqu'ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Ils cherchent des excuses parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui dit « Ah, j'ai mal fait là et je risque d'être jugé pour ça. » Donc du coup, je vais trouver une excuse, je vais inventer quelque chose pour éviter ce jugement. Et ces mêmes personnes-là vont crier au scandale et à l'injustice lorsque mon frère n'aura pas fait ce qu'ils étaient engagés à faire. C'est quand même fou de crier à l'injustice si la loi elle a été inventée, si la morale elle n'est pas absolue, et que finalement chacun il a sa propre morale. Et pourtant il y a quelque chose, il y a un cri du cœur à l'intérieur qui dit il y a de l'injustice. Mes amis, ça c'est la loi de Dieu qui est inscrite dans le cœur des gens. Le bien et le mal n'est pas une conception, le mal et le bien ont une intention et cette intention c'est Dieu. C'est lui qui a investi pour ça. Cette loi elle est là. Seulement cette loi elle n'est pas complète. Parce que cette loi-là, des gens autour de nous peuvent avoir un certain sentiment de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour les gens, pour les autres autour d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la conscience de Dieu et qu'ils ont la conscience d'avoir fait du mal à Dieu. Donc ça, c'est un des éléments. Paul va développer ça. Mais on voit que ça ne va pas jusqu'au bout. Il y a une limite à cette interprétation. Pourquoi ? Parce que dans notre passage, Paul parle de la loi qui est spirituelle, c'est-à-dire quand il parle, il a une conscience de Dieu, il y a un Dieu derrière. Au verset 22, on verra aussi, il dit « En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. » Il y a un désir de Dieu dans la description de Paul. Alors ça nous conduit à notre deuxième interprétation, à cette autre option. Paul parlerait de lui lorsqu'il était un pharisien, lorsqu'il était engagé dans le judaïsme. Et on sait que chez les Juifs, il y avait un zèle pour Dieu de l'honorer, de chercher à accomplir la loi. Alors, c'est quoi le rapport entre ce désir d'accomplir la loi et la galère que Paul semble dire dans notre texte où je fais ce que je veux pas et j'arrive pas à faire ce que je voudrais bien faire? C'est quoi le rapport? Et c'est mon deuxième constat ce matin. Une bonne loi impossible à accomplir. Une bonne loi impossible à accomplir. Cette loi, décrite comme spirituelle, décrite comme bonne dans notre texte, mais incapable d'être accompli. Quelques versets au-dessus de notre passage, Paul va décrire le problème de la loi. Romains 7, 7 à 8. Il va dire « La loi est-elle péché ? Certainement pas. mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Paul est ici en train de décrire l'expérience que tous les parents dans cette salle ont déjà faite. Vous savez, quand vous avez des tout petits bambins, vous savez, ces petits anges, et qu'on leur dit « tu ne touches pas à la cuisinière ». Qu'est-ce qui se passe dès que vous avez le dos tourné? Un petit pas de côté, je regarde ce qui se passe, un petit pas de côté, et je vais mettre la main sur la cuisinière. J'ai le souvenir de mon petit-neveu, on était gamin, où il y avait une casserole d'eau chaude sur la cuisinière, et puis bien sûr, on ne dépassait pas avec notre tête ce qui se passait sur la cuisinière. Il a tiré sur la casserole, il s'est renversé de l'eau bouillante, et aujourd'hui, il a toujours, au niveau du pectoral, la marque de la brûlure, la marque de la blessure. C'est exactement ce que va décrire Paul ici. Il y a dans nos cœurs, mes amis, une attraction à la transgression lorsqu'il y a une interdiction. Dès qu'il y a une interdiction, il y a comme une attraction à l'intérieur de nous qui a envie de franchir la ligne. Et je remercie le Seigneur pour Matthieu qui a su dire non quand on lui a proposé de la drogue, comme il nous le disait tout à l'heure. Mais il y a quelque chose dans le cœur qui se passe. Notre nature rebelle, elle est stimulée lorsque des restrictions lui sont imposées. Alors Paul va expliquer en trois points dans ce passage que la loi donne aux hommes la connaissance du péché. Dieu le fait en exprimant des commandements et des interdictions qui incitent les hommes à les transgresser. Trois, la loi ne donne pas le pouvoir d'accomplir ses commandements et elle ne délivre pas non plus de la puissance du péché. Pourtant, les religieux juifs de l'époque où Paul communique avec l'église de Rome cherchaient à atteindre Dieu par leurs propres efforts, par leurs ambitions, de chercher cette approbation de Dieu. Et ils pensaient pouvoir l'accomplir par eux-mêmes. Mais c'est impossible à cause du péché. Et j'aime ce que le théologien Henri Blocher, un célèbre théologien français, va dire. Il va dire que si cette description décrit le juif pieux, qui est proche du royaume de Dieu, qui pense aux choses de Dieu, on retrouve aussi tous les disciples de Jésus qui cherchent à se replacer sous la loi de l'Ancien Testament ou d'autres règles pour tenter de servir Dieu et de lui plaire par leur propre force. Mes amis, j'ai envie de vous dire ce matin, c'est impossible. C'est impossible. Tout l'enjeu de cette lettre de Paul, c'est de dissuader les gens de penser qu'ils sont de bonnes personnes. Est-ce que tu peux regarder ton voisin ce matin et lui dire « tu n'es pas une bonne personne » ? Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas des bonnes choses. On revient. Sur YouTube, vous couperez cet instant. Merci. On n'est pas des bonnes personnes lorsqu'on compte sur nos propres forces. On n'est pas capable d'accomplir la loi de Dieu par nos propres forces. On ne peut pas mériter le ciel par les bonnes choses qu'on peut faire. Plusieurs fois, Paul, dans ce passage, va parler de la nature propre, le terme, peut-être dans les plus vieilles versions, vous avez déjà entendu parler de la chair. Alors on l'aime bien ce mot-là, mais souvent on le mélange avec le corps, on fait un gros mélange, et c'est comme ça que la pensée grecque est venue nous influencer, le corps est pourri, alors que ce n'est pas ça que le texte dit. Quand il est mentionné le mot sarx dans le contexte de ce que Paul est en train de dire, on nous parle de la nature terrestre de l'homme séparé de Dieu, séparé de l'influence divine, et qui est poussé toujours à pécher et à s'opposer à Dieu. Vous savez, ces désirs irrésistibles, nos mauvaises pensées, nos actes mauvais, qui sont la caractéristique d'un homme et d'une femme, bien sûr, livré à lui-même. Paul poursuit Romains 7, versets 21-23. Il dit « Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Mes amis, ce matin, que nous soyons sans Dieu, que nous soyons religieux ou que nous soyons avec Jésus, par nos propres forces, nous ne pouvons pas atteindre le ciel. Peu importe dans quelle catégorie nous nous situons ce matin, nous devons faire face et lutter avec notre péché. C'est pour tout le monde. Paul parle dans ce passage au temps présent. Juste avant, dans le chapitre, il parlait au passé pour expliquer la loi, etc. Là, il bascule au présent, dans son quotidien, dans ce qu'il est en train de vivre. Il parle à la première personne. Je. Il décrit sa réalité présente. Le théologien John Stott va commenter cette section en disant que, dans ce paragraphe-ci, il décrit le combat acharné et sans relâche contre le péché dans lequel, en combattant actif, il refuse la défaite. Est-ce qu'il y a des gens qui refusent la défaite ce matin dans ce lieu ? Il y en a quelques-uns. Il y en a, ils ont dit, ouais, j'arrête, c'est bon, c'est trop dur. Est-ce qu'il y en a qui refusent la défaite ? Le fait que Paul reconnaisse que son être intérieur est corrompu par le péché démontre qu'il s'agit d'un croyant mature. Ça démontre qu'il s'agit d'un croyant mature. Il est lucide sur ce qu'il est en train de vivre. Il est lucide sur ses combats intérieurs. Si on croit qu'on n'a pas de péché, mes amis, c'est que vous avez besoin de comprendre la grâce de Jésus encore aujourd'hui. Même peut-être après 41 ans de vie chrétienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 41, je vise personne. Romains 7, 24, Paul continue, dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Corps, sarx, ok, pas le corps. Hein. Les commentateurs expliquent pour cette phrase, et en particulier John MacArthur, que Paul ici fait probablement allusion à une tribu proche de la ville de Tarse. Vous savez, Paul, il vient de Tarse, une allusion à une tradition qui racontait que lorsque quelqu'un tuait une personne, un meurtrier, sa condamnation, c'est qu'on attachait le corps de sa victime morte contre lui jusqu'à ce que la pourriture l'infecte et produise la mort. On attachait le corps de la victime contre la personne jusqu'au bout comme condamnation jusqu'à ce que la pourriture l'infecte et produise la mort. Mes amis, c'est exactement ce que fait le péché dans nos vies. Il est là. Des fois, on le tolère un petit peu. Oh, ça passe. Et puis, on commence à jouer, à jouer, à jouer, à jouer, à jouer. Mes amis, ça nous infecte lentement, mais ça nous infecte sûrement. Et le péché produit la mort. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Mais qui va me délivrer de cette nature corrompue, livrée à moi-même ? Qui va faire ça ? Voilà pourquoi il va demander, mais qui va pouvoir me délivrer ? Ce mot « délivrer » ici, ça signifie « arracher du danger ». C'est quand un soldat est en train de mourir sur le champ de bataille et qu'il y a un de ses équipiers qui venait l'extirper et le délivrer. L'extirper et le sauver. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Ça décrit ici l'aspiration de l'apôtre Paul à être délivré. Délivré de lui-même. Délivré du péché qui est là, de cette nature corrompue. John Stott continuera en disant « Qui peut penser et parler ainsi de lui-même ?» Si ce n'est un croyant adulte, l'incroyant est caractérisé par la propre justice et n'admettrait jamais qu'il puisse être une misérable créature. John Stott parle de l'incroyant, mais moi je parle aussi du religieux. Parce que le religieux croit aussi qu'il n'est pas injuste, qu'il n'y a pas de problème dans sa vie et qu'il est parfait et qu'il mérite l'approbation divine. Ici, nous avons la description de quelqu'un qui sait qu'il a besoin de la grâce de Jésus dans son quotidien. Il sait qu'il n'est pas parfait, Matthieu l'a rappelé, l'épi n'est pas une église parfaite, mais on s'attend au Dieu parfait, celui qui a décidé d'agir en nous et de nous transformer. On a ici le conflit d'un chrétien qui, bien qu'il sait, qu'il connaisse la volonté de Dieu, qu'il la désire, qu'il aspire et qu'il aime la volonté de Dieu, découvre qu'il est incapable par lui-même d'y obéir, parce que le péché le tient captif. Alors on va prendre un instant aussi pour parler du péché. Parce que bien souvent, dans la tête des gens, lorsqu'on parle du péché, on pense à des actions, on pense à des gestes ou à des comportements. En réalité, c'est bien plus que cela. Pasteur Denis Morissette, vous savez, qui vient souvent à l'Épi, une fois tous les deux ans, qui vient du Canada, a dit la chose suivante par rapport au péché. Nous faisons l'erreur de prendre le péché pour un acte, ce qu'il est. Mais le péché est plus qu'un acte ou un comportement. Le péché est une source de puissance complexe, dynamique, provenant d'un être spirituel, Satan, qui affecte la pensée humaine. Lorsque Paul décrit ses luttes, il dit que le mal qu'il fait est dû au péché et qui habite en lui. Alors ne croyons pas qu'il est en train de se dédouaner et dire ben, « c'est pas de ma faute, c'est le péché ». Moi j'y peux rien, je suis pécheur. Non. Il ne cherche pas à se dédouaner, mais il décrit la force et la puissance qui agit, qui le pousse à mal agir, alors que lui aspire à honorer Dieu, qu'il aspire à faire le bien, mais qu'il fait finalement le mal. Mes amis, dans le péché, nous sommes à la fois responsables et asservi. Responsable et asservi. C'est Martin Luther qui parlera pour décrire le fait que nous soyons responsables et asservis de serf-arbitre. Alors je sais qu'on est à une époque où on aime parler du libre-arbitre. Je fais ce que je veux, je décide ce que je veux, le bien et le mal. Mes amis, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de libre-arbitre. Je peux choisir le bien ou je peux choisir le mal à satiété. Non, il n'y a pas. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous asservis par cette puissance du péché. Alors le péché n'est pas toujours une vie de débauche, parce que dans la tête des gens, le péché, c'est forcément le gars de la première scène qui va dans la pornographie ou qui va coucher en dehors de son mariage, etc. Il n'y a pas que ça dans ce qui est décrit. Mes amis, si chacun d'entre nous sommes pécheurs dans cette salle, nous sommes tous aussi victimes du péché des autres. On est dans un monde qui gît, la Bible nous dit, sous la puissance du péché. Ce qui fait que certaines personnes vont réagir avec leur propre force pour essayer de s'en sortir aux situations hostiles qui peuvent s'abattre dans leur vie. Nous sommes tous dans ce monde-là, pécheurs et victimes du péché des autres. Alors jetons pas trop vite la pierre sur les gens lorsqu'ils essayent de s'en sortir par leurs propres moyens. Dans ces circonstances-là, du pécheur et victime du péché, fonctionner selon notre propre nature va consister à chercher à s'en sortir pour lutter contre une injustice ou l'égoïsme par nos propres forces, comme le gars qui essaye de se venger de son collègue parce qu'il lui a pourri la promotion qu'il aurait pu avoir. C'est aussi chacun des membres du couple qui vont chercher à tirer la couverture sur eux par égoïsme. Dire ce qui est important, c'est moi avant l'autre. C'est des gens qui cherchent à s'en sortir lorsque, dans le couple, on va se dire des paroles qu'on n'aurait pas dû se dire, et puis que vous savez que la sauce, elle monte, parce que « Ah, tu m'as envoyé un pic, je te renvoie un pic », et puis ça monte, ça monte, ça monte. Tout ça, c'est la puissance du péché qui agit en nous. Celui qui souffre de solitude ou de manque d'amour et qui va aller essayer de chercher de la tendresse et du plaisir dans la pornographie ou dans une relation hors mariage. Le religieux qui va chercher à combler le fossé entre lui et Dieu par un légalisme afin de chercher l'approbation et le mérite et l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement nos mauvaises actions qui sont décrites dans ce passage, mes amis. Ça parle de nos réactions et de nos attitudes dans des contextes parfois hostiles dans lesquels nous sommes. Lorsque parfois aussi ce sont nos mauvaises compréhensions des choses, de la foi, qui vont nous faire agir d'une certaine manière. Ah là là, je suis sûr que j'en fais pas assez pour Dieu, alors il faut que j'en fasse encore plus. Une mauvaise compréhension de c'est quoi l'évangile, de c'est quoi la grâce, une faveur imméritée qui va venir nous influencer, où on va chercher à résoudre nos problèmes finalement sans Dieu. Mais voilà, le message ne s'arrête pas là, parce que là on fait un beau constat de qui on est tout seul, mais nous ne sommes pas tout seuls, amen. Après avoir fait ce constat de notre nature corrompue, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y a une solution pour en sortir, ou faut-il seulement accepter de subir? Et c'est mon troisième point ce matin, la solution c'est la loi de l'esprit, pour s'en sortir et ne plus subir. La loi de l'esprit pour ne plus subir et pouvoir s'en sortir. Romains 7, 24, 25, on reprend cette phrase, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et là, Paul va dire, « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul va maintenant nous conduire à la solution. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus va dire dans les évangiles. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Il parle du salut qui est possible. Là où l'homme est incapable de satisfaire à la loi divine pour lui-même, incapable de se sortir de la puissance du péché, Jésus est la solution. J'aime l'image du panier de pommes. Si vous avez un panier de pommes, avec plein de belles pommes saines et qu'il y a une pomme pourrie au milieu, est-ce que c'est les pommes saines qui vont influencer la pomme pourrie, ou est-ce que c'est la pomme pourrie qui va déteindre sur les pommes saines? Parce qu'il y a des gens qui savent. Est-ce que vous avez déjà vu une pomme pourrie redevenir saine? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut une opération extérieure pour ôter la pourriture. Il faut extraire la pomme, il faut prendre un couteau, couper et enlever la partie qui est pourrie. C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans. C'est exactement ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il est venu satisfaire à la loi, non seulement par sa vie parfaite, mais parce qu'il a décidé de donner sa vie à la croix, de satisfaire à ce que la loi exigeait. La loi du péché, Paul dira en Romains, c'est la mort. Jésus a donné sa vie, il a satisfait à la loi, il a offert sa vie pour que toi et moi ne soyons plus condamnés par cette loi. Mes amis, la loi de Moïse a été satisfaite par Jésus-Christ. Il a tout accompli. Nous ne sommes plus sous cette loi. Le juge qui nous déclarait coupables à cause de nos fautes, cette loi qui est venue pointer la crasse qu'il y avait dans nos vies, le juge dit « il y a faute ici ». Mais il enlève sa robe de juge, il vient se placer à côté de toi en tant qu'avocat pour dire « quelqu'un a payé le prix ». Il enlève sa robe d'avocat, il se met à la place du coupable. Et la Bible nous dit que Jésus a été fait péché pour nous. Il a porté ce péché sur sa vie, pour toi, pour moi, pour nous libérer. Pour nous libérer de cette loi du péché et de la mort. Pour que nous puissions être acquittés. Mais pour qu'il y ait acquittement, c'est pas juste « bon ben il n'y a pas de coupable ». Non, Jésus a été fait coupable. Il a été, nous sommes acquittés parce que lui a accepté d'être condamné pour nous. Alors, mes amis, ce matin, vous n'avez plus besoin de chercher à satisfaire à la loi pour plaire à Dieu parce que Jésus l'a accompli pour vous. La dette de ton péché est effacée. Tu es libre. Tu es libre. Et alors, vous allez me dire, mais oui, théoriquement, je comprends que je suis libre, mais pourtant, ça bataille toujours à l'intérieur de moi. Et c'est ce que Paul va poursuivre. C'est comme ça qu'il va poursuivre au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Mes amis, lorsqu'on réalise et qu'on accepte, comme Jérôme nous a invités à le faire ce matin, ce que Christ a fait pour nous, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mes amis, si Jésus est venu sur terre, c'est pour rétablir la connexion. C'est pour qu'on puisse vivre le ciel sur la terre par la présence de Dieu dans nos cœurs. Quand on parle du cœur, on ne parle pas de la pompe cardiaque, on parle du siège de nos pensées. Jésus est venu donner sa vie, il est ressuscité pour que sa vie soit en nous. Pour que sa vie soit en nous. Afin que la connexion avec les cieux soit rétablie. Est-ce que maintenant, tout à l'heure, tu as dit à ton voisin que ce n'était pas une bonne personne, est-ce que tu peux lui dire maintenant tu es la maison du Saint-Esprit ? Ah oui, il faut quand même qu'il y ait une bonne nouvelle. Tu es la maison du Saint-Esprit. Et c'est au travers du Saint-Esprit que Dieu veut agir en nous et imprimer la liberté que Jésus nous a durement acquise. C'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'il veut le faire. Une nouvelle loi est venue dans le cœur du croyant, la loi de l'Esprit. On vient de le lire juste avant, mais le texte nous a dit c'est l'Esprit de Dieu qui communique la vie, qui distribue quelque chose, qui déverse quelque chose dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui le fait. Cette loi de l'Esprit, elle est également une puissance à notre disposition. Denis Morissette dira encore, la loi de l'Esprit nous offre une alternative divine, une voie échappatoire qui prend place dans notre esprit. Alors si, en tant que croyant, le Saint-Esprit vient habiter en nous, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit s'impose à nous. Il ne nous force pas, il ne nous oblige pas, il est un gentleman. On va regarder un petit schéma maintenant qui va nous expliquer qui on est. Alors au milieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Voilà, on est là. Et puis lorsqu'on n'a pas Jésus dans notre vie, qu'est-ce qui se passe ? Ben, y a un ennemi, le diable, Satan, qui va chercher, par son influence, à nous communiquer, tu peux envoyer la suite, le péché, cette puissance dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas juste des actes, mais qui sont une puissance qui vient nous travailler. Et qu'est-ce que produit le péché en nous ? Des choix de vie destructifs. Même si à la base c'est pour des bonnes causes, on peut essayer de faire des bonnes causes en prenant des mauvaises décisions. Donc ça entraîne des choix de vie destructifs. Par contre, lorsque on accepte Jésus dans notre vie, que le Saint-Esprit il habite en nous, il y a une nouvelle source d'influence qui arrive dans notre vie. Cette source d'influence, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Il utilise l'Esprit, la puissance de la grâce, pour venir nous influencer afin de nous conduire, et tu peux envoyer le dernier point, dans des choix de vie constructif. Voilà en gros comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Nous, on est au centre et il y a ces deux sources qui sont là. Et la question, c'est quelle est la source que je vais décider d'écouter ? Je vais laisser agir sur moi. Mes amis, la réalité, c'est que nous sommes comme des éponges. Alors, ce matin, on a été tout, des mauvaises personnes, des gens habités d'esprit. Maintenant, on est une éponge. Vous savez, l'éponge, elle se remplit du jus dans lequel elle baigne. Et mes amis, quand on baigne dans un certain jus et qu'on presse, c'est quoi le jus qui va sortir ? Celui dont on s'est baigné. On est comme des éponges. Quelle est la source d'influence ? Avec quoi on alimente nos cœurs ? Avec quoi on alimente notre vie ? Il est important, mes amis, de veiller avec quoi nous nous remplissons. Vous savez, si on pense qu'on va réussir à combler nos cœurs, notre être intérieur, au travers de ce que notre société et le monde corrompu autour de nous a à nous donner, a à nous proposer, nous allons nous aligner sur cela. Il y a quelques années en arrière, je pense que c'était en 2015, quand il y a eu les derniers attentats, vous savez, j'étais fonctionnaire de police pendant 10 ans, et on est appelé le jour, dans les jours qui suivent les attentats, peut-être le lendemain, je ne me souviens plus, où des voisins disent « Mon voisin, ils sont en train de mettre des armes par la fenêtre ». Alors là, vous savez que vous intervenez, on nous parle d'armes lourdes, etc. On équipe le gilet pare-balles normal, plus le gilet pare-balles lourd. Puis là, on arrive derrière la porte. On défonce la porte. Et là, en fait, on avait un couple de personnes qui étaient psychologiquement dérangées et qui avaient passé toute la journée avec BFM TV en boucle, qui parlait des attentats et des attentats et des attentats. Ils se sont remplis de ça et du coup, ils étaient dans un mode « ça y est, c'est la fin et il faut survivre ». Et ils avaient sorti, alors bien sûr c'était des armes factices pour la plupart, et puis des airsoft, etc. Mais ils s'étaient mis dans un mood, ça y est, c'est la fin, il faut se préparer. Ils se sont remplis de l'ambiance dans laquelle ils étaient. Mes amis, c'est pas BFM TV, c'est pas CNews, c'est pas TF1, c'est pas M6, et il faut que j'en cite d'autres parce que pour les... Voilà. C'est pas ça qui va remplir votre réservoir émotionnel, votre réservoir spirituel. Et le problème, c'est qu'on a des chrétiens qui ne lisent pas leur Bible aujourd'hui. On a des chrétiens qui passent pas de temps avec Dieu. Alors oui, on consomme du YouTube, on consomme toutes sortes de choses, mais on prend pas notre temps personnel avec Dieu. Pourtant, c'est le moyen par lequel Dieu désire te parler, de venir d'alimenter ton cœur, de venir alimenter tes pensées. Prenons, mes amis, le temps de nous nourrir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'applications comme YouVersion qui vous permettent de lire la Bible selon des thématiques, selon vos enjeux que vous vivez sur le moment. Vous avez des plans de lecture tout simples, de 3 minutes à 15 minutes, de 3 minutes à 1 heure. Il y a toutes sortes de choses adaptées pour là où vous en êtes, dans ce que vous êtes capable de digérer. Il y a des outils. Un de mes profs à l'école biblique a dit, alors là il parle de YouTube, et il dit « à l'heure de YouTube, l'ignorance est un choix ». Et moi j'ai envie de vous dire « à l'heure des applications bibliques ». De la Bible, des commentaires. On a une grâce, mes amis, d'avoir une Bible en 50 000 versions françaises pour nous aider à comprendre. On a accès à des commentaires de qualité alors qu'on a des frères et sœurs dans le monde qui ne peuvent même pas avoir une Bible sur eux et qui pourtant, eux, l'apprennent par cœur. Nous, on a accès à tout, on a un choix, mais on ne le fait pas. À l'heure de YouTube, l'ignorance est un choix. C'est un choix qu'on fait, mes amis, de ne pas prendre du temps avec Dieu. Et on peut chercher toutes sortes de prétextes. « Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai une vie bien remplie. Mes amis, tous les jours, vous mangez. » Je ne crois pas qu'il y ait des gens dans cette salle qui disent « Bah moi, je décide de manger que 3 repas sur la semaine. » Personne ne fait ça. Parce qu'on comprend que c'est important pour notre corps. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre ce matin que c'est important pour notre esprit et pour agir selon des choix constructifs, comme on l'a vu dans le plan de passer du temps avec Dieu ? La Bible ne vous dit pas qu'il faut lire 3 chapitres par jour pour être sauvé. La Bible vous dit qu'on a besoin de prendre du temps avec Dieu pour être alimenté. Peu importe le temps que tu prends, qu'il soit qualitatif, mon ami. Que tu coupes les sources, toutes les sources qui viennent te polluer pour dire « Ok Seigneur, j'ai besoin de focaliser sur toi, j'ai besoin de faire un focus sur toi ce matin. J'ai besoin de chercher ta pensée Seigneur parce que je vais avoir des défis au travail, je vais avoir des défis avec ma famille, je vais avoir des défis peut-être de santé, je vais avoir des défis de toutes sortes de choses. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ton cœur. » Vous savez, Dieu veut vous parler tous les jours, la Wi-Fi elle est tout le temps connectée, tu prends ta parole. Dieu veut te parler, Dieu veut t'encourager, Dieu veut te fortifier. Je suis parti très loin de mon message ce matin. Romains 8, 4 va nous dire « Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. » On a une invitation à suivre la voie de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne va pas vous forcer. Notre communion avec Dieu s'alimente par notre relation avec lui, en vivant selon le Saint-Esprit. Mes amis, votre vie, c'est ça. Petit ballon de baudruche. Chaque jour, on a besoin de nous remplir de Jésus. On a besoin d'aller se remplir. Parce que toute la journée, vous allez faire face à des pressions. Ils vont vous dégonfler. On est comme ce ballon, mes amis. On ne peut pas être gonflé une fois pour toutes. On a besoin constamment d'aller puiser, d'aller chercher Dieu pour être rempli et faire face aux défis de nos vies. Je vais inviter le groupe de louanges à venir. On a besoin d'être renouvelé pour faire face aux pressions. On a donc besoin quotidiennement de nous ressourcer, de puiser en Christ pour faire face aux défis. J'ai aimé le passage qui a été lu tout à l'heure par notre sœur dans le livre d'Ésaïe. Elle a dit que le passage disait qu'on était invité à puiser à la source du salut. À puiser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous est demandé. Vous savez, la Bible n'exclut pas certains efforts, elle exclut le mérite. Mais nous sommes invités à faire une part, celle d'aller puiser aux sources du salut, là où Dieu imprime sa vie et la déverse en nous, afin de nous influencer, de nous équiper pour faire face aux choix du quotidien. On a besoin de ça, mes amis. Vous savez, un des mensonges de Satan, c'est de faire croire dans notre christianisme moderne que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, il appuie sur un bouton reset, et puis que là, je plane au-dessus des tentations, de la maladie, des difficultés, en chantant « Ça plane pour moi ». C'est un mensonge de Satan, mes amis. On a besoin d'aller puiser tous les jours, quotidiennement, à chercher la face de Dieu. Mes amis, nous ne pourrons jamais faire l'économie de la dépendance de Jésus-Christ. Tant que Jésus ne sera pas revenu, vous ne pourrez pas faire d'économie dans votre vie chrétienne si vous voulez vivre de manière victorieuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte là. Ça ne veut pas dire que des fois il n'y aura pas des temps d'échec. Mais on va revenir. On ne va pas abandonner. On ne va pas lâcher. On va continuer à se battre. Tu peux y aller. Hein. Je vais terminer avec ce passage parallèle de Paul dans l'Épître aux Galates. Et Paul va dire « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce verset résume à lui tout seul tout ce qu'on vient de dire. À savoir que nos efforts pour lutter contre notre chair n'est pas une condition pour être quelqu'un rempli de l'esprit. Le texte nous dit justement que tu as besoin d'être rempli de l'esprit pour pouvoir lutter contre la chair. Et on prend le problème à l'envers. Il y en a, ils ont accepté Jésus une fois pour toutes, à la grâce, lors d'une campagne d'évangélisation. Oui, Jésus me sauve par grâce. Et puis toute leur vie chrétienne, c'est un effort pour obéir à un autre Dieu que celui qu'ils ont rencontré la première fois. Ils ont dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Un autre Dieu. Il a le même nom. Il a la même Bible, mais une mauvaise lecture. On a besoin, mes amis, de revenir à cette essence de la grâce, de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de notre nature propre. Marcher par l'esprit entraîne la conséquence de vaincre les désirs de notre chair. J'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est que cette puissance, elle est accessible pour tous ceux qui ont donné leur foi en Jésus. Elle est là. Elle est là parce que le Saint-Esprit vit en vous. Elle est là ce matin. La puissance de Dieu. Mais ce n'est pas magique. Ce n'est pas une fois pour toutes. Je ne vais pas faire un appel ce matin à vous lever, vous allez vous lever, et puis dire, ben, j'ai levé la main, c'est bon, je vais être puissant toute ma vie. Non. Parce que Jésus vous demande d'aller à ses pieds. Jésus vous demande d'aller vous alimenter. Mais la source de salut, elle est là. La source de victoire, elle est là, mes amis. Alors j'aimerais alors qu'on ferme les yeux ce matin. Peut-être inviter quelqu'un. On a parlé, on a identifié beaucoup de choses. On a identifié des pulsions qui nous dépassent. On a peut-être identifié des tensions dans le couple, des incompréhensions. Peut-être à cause de l'orgueil, à cause de la fatigue, des situations de vie. Toutes ces choses qui peuvent être là et qui viennent pourrir la relation. On a parlé aussi peut-être d'une mauvaise lecture de la foi, une mauvaise lecture de la religion. On a parlé des fois d'un sentiment de vengeance parce qu'on m'a fait une crasse. Je vais t'inviter simplement ce matin à ta place. À dire, Seigneur, j'ai compris que la source du salut, elle est à ma disposition. J'ai compris qu'elle est là. Si dans ton cœur, tu t'es interpellé ce matin, alors que tes yeux sont fermés, je t'invite simplement à te mettre debout à ta place. Mais comme on vient de le dire, ça ne va pas être une pensée magique. C'est ok, Seigneur, j'ai compris que tu m'invites et que tu m'appelles à marcher à ta suite au quotidien. Si c'est le cas dans ton cœur ce matin, là où tu es, lève-toi pour faire un signe au ciel, dire, Seigneur, ok, c'est pas parfait et c'est pas parce que je me lève que ça va marcher.
mais j'ai compris que j'ai besoin de toi. J'ai compris que j'ai besoin de vivre cette communion avec toi, Seigneur. Alors je te prie, Père, je te prie, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui font face à des luttes, à des défis. Peu importe l'origine, que ce soit une mauvaise action, que ce soit une réaction à ce qu'on peut nous faire vivre au quotidien. Seigneur, je te prie pour que ta grâce se déverse. Tu vois ces personnes qui se sont levées ce matin. Jésus, je te prie de les accompagner. Je te prie pour que notre Église puisse aussi les accompagner dans leur démarche. On veut se tenir aussi à la disposition parce que nous sommes une famille. On veut pouvoir aider, prodiguer des conseils, des soins, et aider ces personnes qui se lèvent ce matin. Saint-Esprit, je te prie de venir les toucher. Je te prie pour une paix surnaturelle dans leur cœur ce matin. Alors qu'on va déclarer que notre Dieu sauve avec puissance. Seigneur, je te prie de les remplir de toi encore. Seigneur, et qu'ils puissent se dire, Seigneur, tu m'as rempli ce matin, mais demain je vais aller gonfler le ballon de ma vie. Et après-demain, je vais aller gonfler le ballon de ma vie. Et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, je veux gonfler le ballon de ma vie dans ta présence. Parce que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Je te prie de souffler encore, Éternel, de faire éclater ta grâce. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen.
peut rester debout un instant. Je vais inviter Gevorg, Angela, Rafik et Nera à bien vouloir s'approcher. Sauveur, il déplace des montagnes. C'est d'autant plus vrai quand on est jeune parent et qu'il y a quelques montagnes qui peuvent se dresser parfois dans la parentalité. Avec Alec, je prononce bien, Alec et Achot, c'est ça ? Venez rester ici. Je vais inviter le conseil spirituel, s'il vous plaît, à bien vouloir nous rejoindre. Alors, pour que je ne me trompe pas dans les dates de naissance. Salut Alec, moi c'est Mathieu. Tu sais ce qu'on a en commun ? Toi et moi, on est deux beaux gosses. Voilà. Alors, Alec, il est né le 28 décembre, c'est ça ? 2022. Et Achot, il est né le 22 juillet 2022. Ils sont beaux, non ? Allez, on va demander à un papy de bien vouloir s'approcher. Et une maman aussi qui va prier. Il aurait pu avoir un papa entier aussi qui prie, hein, mais voilà. Oui, c'est vrai, t'es grand-père aussi, c'est vrai. On va prier pour vous. À l'épi, nous présentons les enfants, Seigneur, nous prions pour les parents. Quand ils seront en âge de saisir l'évangile de la grâce de Jésus, ils pourront faire ce choix de suivre Jésus, de s'engager par les eaux du baptême. Mais nous voulons être cette église qui encourage, qui bénit enfants et parents. Et c'est pourquoi on veut prier avec l'église, la communauté, parce que nous sommes aussi cette famille. Et au fait, Achot, j'ai oublié de te dire aussi, mais t'es un beau gosse comme moi aussi, d'accord ? Je t'ai pas oublié, Achot, d'accord ? On commence avec toi, Anita, de prier.
Seigneur, c'est vraiment un plaisir de prier à la fois pour ces petits, ces enfants, leurs parents, leurs familles. Seigneur, nous voulons en ton nom les bénir. Nous appelons ton esprit pour leur vie. Nous voulons qu'ils viennent à toi. Et dès à présent, nous voulons, Seigneur, que tu les aides dans leur développement, dans leur santé, que tout se passe bien. Et nous te prions pour leurs parents afin qu'ils soient remplis de toute ta sagesse, d'un amour éclairé, d'un amour vigilant, d'un amour qui permettra de donner le meilleur à leurs enfants. Et nous te prions pour eux aussi en tant que couple afin que tu les gardes et les bénisses, Seigneur.
Seigneur, nous te remercions pour ces enfants. C'est un cadeau, Seigneur, de ta part. Que tu as donné, Seigneur, à nos frères et sœurs. Nous voulons bénir ces enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent croître, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons prier, Seigneur, aussi pour les parents, afin que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, le discernement, Seigneur, pour élever leurs petits. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu as déjà tracé la vie de ces enfants. Seigneur, c'est toi qui as déjà inscrit dans ton livre tout ce que tu as préparé pour eux. Et nous savons que ce sont des bonnes œuvres, nous savons que ce sont des plans merveilleux que tu as préparés pour eux. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction sur ces familles. Merci, Seigneur, encore de les enrichir abondamment de ta grâce. Amen.
On va finir ce temps de prière avec le dernier papy, le papy anti-alsacien, qui va prier pour toutes les familles de l'épi, les papas, les mamans. On vous a dit en début de célébration, on veut vraiment des parents renouvelés. Et merci, Jacques.
Nous voulons, Seigneur, avant toute chose, prier pour... Les parents ici présents, tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, l'autorité spirituelle pour élever leurs enfants également, Seigneur. Prions aussi pour que, Seigneur, ils puissent aussi, comme nous l'avons entendu, les élever, Seigneur mon Dieu, selon ce que ta parole enseigne, alors que ta grâce et ta paix les accompagnent. Je veux aussi, Seigneur, bénir toutes les familles représentées dans l'Église, les pères, les mères, Seigneur, leur donnant également, Seigneur mon Dieu, ta bénédiction, permettant aussi, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, des prêtres, Seigneur mon Dieu, dans leur famille, afin qu'ils transmettent un témoignage puissant à leurs enfants. Que la bénédiction de Dieu, la puissance, l'autorité du Saint-Esprit repose sur toutes les familles de l'épi. Nous prions, Seigneur, pour que, Seigneur, et nous voulons aussi briser toute action du diable. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que le but du diable, c'est de détruire les familles. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, être une église, Seigneur, où les familles Seigneur mon Dieu, et bien contrecarre, Seigneur, les actions du diable, alors que la bénédiction, la grâce, la puissance, l'autorité du Seigneur et du Saint-Esprit reposent sur les familles, les pères, les mères et les enfants, pour la gloire de ton nom. Et nous pensons aussi, tout particulièrement aussi aux enfants qui débutent en ce matin, Seigneur, l'enseignement, Seigneur mon Dieu, qu'ils reçoivent au travers, Seigneur mon Dieu, d'épisodes, que ta grâce et ta paix les accompagnent, Seigneur. Amen.
Est-ce qu'on peut bénir, encourager ces familles? Que Dieu vous bénisse. Et nous, on va finir en louange, on va chanter « Resplendir » pour que ce monde croie. On élève le nom de Jésus pour finir ce temps ensemble. Soyez tous bénis.
Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Ressuscité, Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité.
Soyons des éponges plantées au bon endroit, soyons des ballons remplis de la présence de Dieu. Permettez-nous de prier pour vous et vous souhaiter encore une bonne semaine avec plein d'occasions de vivre la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps de célébration, pour ce message qui nous rappelle le sens même de la croix, la grâce agissante de Dieu. Merci de bénir tout à chacun dans ce lieu, des visiteurs, des amis, l'Église rassemblée. Aide-nous, Seigneur, à être cet arbre planté près des courants d'eau. Aide-nous cette semaine, apprends-nous encore à pouvoir faire, par l'impulsion du Saint-Esprit, ces choix constructifs. Merci de bénir chacun dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Et bon retour à chacune et à chacun.